principalement.
C'est les chroniques d'Odilon, tous les lundis à midi.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce 38e podcast des chroniques d'Odilon. Salut Manu, salut Xavier.
Salut Magali.
Salut tout le monde.
À 3 jours de Noël, on a décidé de vous proposer une émission spéciale autour de cet événement si important pour tous de cette fin d'année.
Ouais.
Avant cela, Manu, tu as le programme de la semaine au niveau des animations à nous dire.
Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Cette semaine, il y a donc 3 activités de groupe à la salle Calypso. Ça débute en général dès 14h30. Cet après-midi, on se retrouve pour un jeu musical avec le support Hitster. Vous savez, je scanne ça, c'est des QR codes avec le portable. Je vous fais écouter un extrait de 20 secondes et puis vous devez retrouver l'artiste et le titre de la chanson. Et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en plus, après, il faut définir sur une sorte de frise chronologique où se situe la chanson. Est-ce que c'est dans les années 80, oui, voilà. 90, tout ça. Donc ça, c'est cet après-midi. Demain, on remet le couvert avec Color Brain, qui est un jeu donc, de culture générale, où toutes les réponses que vous allez devoir donner sont forcément l'une des 12 cartes couleurs que vous avez entre les mains. Par exemple, je dirais n'importe quoi, de quelle couleur, quelles sont les couleurs du Père Noël. Donc il y aura, vous avez une carte blanche, une carte rouge, vous mettez les 2 cartes rouge et blanche, ça sera votre réponse. Donc c'est que des couleurs. Donc ça c'est le mardi après-midi. Et enfin mercredi, on termine avec un petit quiz autour de la thématique de Noël. Voilà. Donc soyez bien attentifs parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on va entendre aujourd'hui qui vous serviront pour mercredi prochain. Voilà pour moi.
Merci Manu pour ces informations. Xavier, c'est toi qui vas débuter cette émission spéciale Noël.
Oui, pour commencer, et parce que Noël est une fête mondiale, sauriez-vous dire comment s'appelle le Père Noël en Finlande?
Oh là, non.
Et en Italie?
Non plus. Tu sais toi, Mag?
Ou encore en Danemark?
Non. Allez, tu vas nous apprendre ça, vas-y.
Alors, voici les réponses. En Finlande, le Père Noël se dit Joulupukki. En okay. Italie, Babbo Natale. Et enfin, au Danemark, Julmanden.
Ouais, dis donc, t'es trilingue, hein.
Oui.
Même plus que ça. T'es polyglotte.
D'autres anecdotes autour de Noël?
Oui, on sait que c'est la partie du repas que vous attendez le plus lors du réveillon. Saviez-vous que la bûche de Noël était une tradition française?
Alors, avant même ça, est-ce que vous, c'est un truc que vous attendez, la bûche de Noël?
Oui.
Ouais, Mag?
Oui.
T'aimes bien?
Oui.
Plutôt pâtissière ou bûche glacée?
Glacée.
Glacée, toi, Xav?
Non, pâtissière.
Pâtissière, ouais, moi aussi, je suis plus pâtissière. Hein. Alors, vas-y, la bûche, l'histoire de la bûche.
Non, les Français ne sont pas gourmands. La première bûche de Noël est apparue en 1945. Avant ça, c'était une bûche de bois que l'on plaçait dans la cheminée avant de la messe de minuit. Après quoi, on récupérait les restes pour protéger les maisons jusqu'à l'année suivante.
D'accord, donc c'est un truc bien français.
Oui.
Et vous faisiez ça, vous, la messe de minuit, quand vous étiez jeune?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Le 24 au soir, là?
Oui.
Waouh. Magali, t'as connu
non,
ça, toi?
Non, on n'allait pas aux messes de minuit.
Ouais. Et t'y allais avec joie ou c'était un truc...
Ça m'énervait.
Bon, c'est vrai que, surtout quand t'es plus jeune, t'es plus en attente de...
Quand j'étais plus jeune, oui, mais bah, après, adolescent, j'ai arrêté.
Ouais. Puis c'était les cadeaux qui...
Voilà,
oui,
tu
vas un peu plus que la messe. Cadeaux plutôt.
Bah oui.
Ok, super, Manu, autre chose?
Oui, bien sûr, que serait Noël sans son arbre emblématique? Cette année encore, toutes les résidences sont bien décorées, hein, j'ai vu les résidences avec des beaux sapins de Noël. Mais d'où vient cette tradition? Eh bien, il faut remercier, devinez qui? Les Alsaciens. Vous savez ça, Xavier?
Pas du tout.
Donc, c'est eux qui ont instauré cette belle tradition en 1521. Donc, ça remonte quand même à...
Putain, c'est vieux,
ouais. Oui. À cette époque, les habitants étaient autorisés à couper le 21 décembre, lors de la Saint-Thomas, les arbres qui étaient encore verts, et à les décorer de roses, de pommes, confiseries ou petits gâteaux. Puis la tradition s'est étendue jusqu'à toucher le monde entier.
D'accord. Moi j'ai une autre anecdote, Manu.
Ah ouais, vas-y.
Qui n'a jamais laissé un biscuit, une tasse de lait fumante et une carotte au pied du sapin pour le Père Noël et ses rennes?
Oh, le biscuit, d'accord. La carotte, vous faisiez ça, vous? Pour les rennes? T'as fait ça, toi, Mag? Incroyable. Ok, ben oui. Qui est-ce qui fait ça?
Les Irlandais. Eh oui, chez eux, c'est plutôt verre de whisky, Guinness ou pain de viande. Il n'y a pas à dire, ils savent recevoir ces Irlandais.
Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux aller en Irlande, là, pour le coup. Hein.
Merci Xavier et Manu pour ces anecdotes. On pourrait partager des informations encore plus insolites, c'est Noël, non? Vous avez ça sous la main? Appuie, et tiens, je me lance avec celle-ci. Quelle est l'origine des chaussettes de Noël?
J'en sais rien du tout, mais...
Ouais, tu sais, ce que tu suspends, là...
Ouais, mais je fais pas moi.
Dis-nous.
La tradition de suspendre des chaussettes pour Noël viendrait de l'histoire de Saint-Nicolas. Une légende raconte que trois jeunes sœurs très pauvres avaient leurs chaussettes mouillées à sécher près de la cheminée. Touchées par leur histoire, Saint-Nicolas déversa trois sacs d'or dans leur cheminée et les pièces tombèrent dans leurs chaussettes. Depuis, la coutume est restée.
Oh bah moi, je vais mettre des chaussettes mouillées, là, je crois. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Moi, je ne savais pas. Vous saviez, vous, ça? Vous connaissez cette histoire?
Pas du tout.
Ok, très bien. Mais, et, est-ce que tu connaissais celle-là? Pourquoi est-ce qu'on accroche des boules au sapin de Noël?
Je ne sais pas du tout, Manu.
Et toi, Mac, sais? Tu sais pas? Alors, à l'origine, on accrochait des petites pommes rouges au sapin pour les décorer. Ça remonte à l'hiver 1858, où cette année-là, les récoltes de pommes ont été mais désastreuses. Et donc, il y a un maître verrier qui a eu l'idée de façonner des petites boules en verre pour les remplacer. Et il y a une autre légende qui attribue aussi à un souffleur de verre allemand cette idée de remplacer les fruits, qui étaient trop chers, par des boules en verre. Ça, c'est pas mal, tu savais?
Non.
Mais voilà. Donc, tu vois, t'as encore appris un truc. Et toi, Xavier, est-ce que tu as autre chose à nous partager, tiens?
Oui, les origines des couleurs du Père Noël.
Ah, ouais, c'est vrai que les origines du couleur... Moi, j'ai une idée, mais vas-y.
Saint-Nicolas. La figure de Saint-Nicolas est un évêque du 4e siècle, connu pour sa générosité et l'une des principales inspirations du Père Noël. Mmh. Saint-Nicolas portait souvent des vêtements liturgiques rouges et blancs. Sinterklaas aux Pays-Bas. Sinterklaas est une figure semblable à Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre. Il porte également une tenue de rouge et blanche. D'ailleurs, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas.
Donc déjà, tu vois, il y a deux entités portant du rouge et du blanc.
Father Christmas. En Angleterre, Father Christmas était une figure païenne associé à la fête de Yule, souvent représenté en vert.
Ah, du vert, là.
Vert et blanc, quoi. Mmh. En Russie, Den Moroz, grand-père Gel, est une figure similaire au Père Noël, souvent représenté en bleu.
Ok, donc on a du rouge et du blanc, du vert, du bleu.
Contrairement à une légende populaire, Coca-Cola n'a donc pas inventé la couleur rouge du Père Noël. Il a popularisé cette version... Les célèbres publicités de la marque dans les années 1930. On a simplement rendu cette image incontournable grâce à ces campagnes marketing.
Ouais, moi je pensais que c'était Coca-Cola, mais tu vois, ça existait quand même avant, cette couleur rouge. Ouais. C'est juste que Coca-Cola a mis ça en avant et ça a propulsé cette couleur-là après, dans le futur.
Un vrai travail d'enquêteur que nous a fait là Xavier.
Merci Magali.
Manu, pour finir, tu vas nous faire un tour du monde des habitudes insolites liées à Noël dans certains pays.
Oui, alors accrochez-vous là, parce que là, on va partir un peu dans le monde entier. Avez-vous déjà entendu parler de Krampus? Ça vous parle ou pas?
Oui.
Alors Krampus, c'est en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. c'est un nom qui fait frissonner, et pour cause, Krampus n'est autre que l'alter ego diabolique et poilu du Père Noël. D'accord. Une sorte de Grinch, tu vois.
Ouais.
D'après la légende, si le Père Noël apporte des jouets aux enfants gentils, le Krampus a lui, pour mission de punir les enfants figurant sur la liste des vilains. La plupart du temps, il se contente d'effrayer les enfants avec son allure un peu bestiale, mais on dit qu'il jette les enfants particulièrement méchants dans son sac et qu'il les enchaîne dans son panier pour les emmener en enfer. Et c'est pour cette raison qu'en Autriche et dans les pays voisins, les gens se déguisent souvent en Krampus début décembre et parcourent les rues pour effrayer les enfants.
Je sais pas.
Une autre tradition qui, cette fois-ci, nous vient du Mexique et qui s'appelle la nuit des radis. En France, donc, les fêtes de Noël sont souvent associées donc, à une grosse consommation de chocolat. Mais dans une ville au Mexique, à Oaxaca, on célèbre chaque 23 décembre la Noche de Rabanos, qui veut dire donc, la nuit des radis. Un festival au cours duquel les commerçants et les artisans vendent des radis finement sculptés pour représenter des scènes de la nativité, de la faune et de l'architecture locale, ainsi que d'autres représentations pertinentes. Les sculptures de radis sont vendues comme centre de table de Noël et le créateur du meilleur dessin de radis gagne un prix en argent. C'est une tradition de Noël qui est vraiment insolite. Mais garantie sans crise de foi, contrairement au chocolat, hein, monsieur Xavier.
Il n'y a que ça que j'attends, moi, à Noël.
Bah oui, on se doute bien. Toi aussi, Maguin.
Ouais,
j'ai vu que tu avais commencé d'ailleurs un peu. Hein. Au Japon, il y a une tradition avec le KFC. Tu vois ce que c'est le KFC, la chaîne de...
De repas rapide.
Oui, voilà. Eh bien, un seau de poulet frit comme repas de Noël. Eh bien, figurez-vous qu'il ne s'agit pas d'une tradition insolite américaine, mais bel et bien japonaise. C'est pas une blague, au Japon, la chaîne KFC est prise d'assaut chaque veille de Noël. On estime que 3,5 millions de familles japonaises y viennent se délecter de poulet frit. Cette tradition de Noël, tout à fait insolite, a vu le jour grâce à un coup marketing, encore une fois, de KFC dans les années 70. Intitulé Kurusumasu Niwa Kentucky, qui veut dire Kentucky pour Noël, s'appuyant sur l'absence de réelle tradition de Noël dans un pays très minoritairement chrétien, le repas de Noël de KFC est si populaire que de nombreux clients commandent leur dîner, qui comprend donc du poulet frit, du gâteau et du champagne, des mois à l'avance. Magali, tu peux prendre le relais là sur...
Oui. En Norvège, on croit à Mordicus que les sorcières et les mauvais esprits errent dans le ciel nocturne la veille de Noël. Et quel est le mode de transport préféré des sorcières? Un manche à balai.
Ah oui.
Par prudence, les Norvégiens cachent donc tous les balais dans leur maison pour empêcher les sorcières d'y mettre la main.
Elle est pas belle, les Norvégiens, hein?
Parfois, les gens vont plus loin en tirant un coup de feu d'avertissement en l'air pour les effrayer.
Bon, bah, elle était pas mal, celle-là. Et d'ailleurs, en parlant de sorcières, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissez la version italienne du Père Noël?
Non.
Non.
Eh bien, il s'agit en fait d'une vieille sorcière bien laide, mais gentille, hein, et qui est appelée la Befana. Selon la légende, les trois mages se seraient arrêtés chez elle pour demander leur chemin avant de rendre visite à l'enfant Jésus. Ils auraient alors invité Befana à les accompagner dans leur périple. Mais la sorcière aurait décliné l'invitation, du fait de ses nombreuses tâches ménagères à accomplir. Ce n'est qu'après leur départ qu'elle aurait changé d'avis et aurait essayé de les retrouver en vain. Depuis, elle enfourche son balai chaque nuit du 5 janvier, qui est donc la veille de la rencontre des mages avec l'enfant Jésus. Tout comme le Père Noël, la Befana livre des jouets aux enfants. Au lieu du lait et des biscuits, les Italiens lui laissent une assiette de saucisses et de brocolis avec un verre de vin. Ouais, moi, je préfère le whisky et la Guinness en Irlande. Hein. Pas vous, mais... tiens, Xavier, tu peux en raconter une, toi?
Noël au balcon, pas cotisons. Dans l'hémisphère sud, c'est soleil à volonté. Puisque les fêtes de Noël se déroulent en été.
Ah bah oui, c'est vrai, c'est l'été là-bas.
Bah oui, c'est...
C'est inversé.
Les températures australiennes peuvent facilement atteindre la trentaine degrés à Noël, ce qui incite naturellement des Australiens à se rendre à la plage.
C'est vrai, ça doit faire bizarre le jour de Noël d'aller se baigner là en maillot de bain.
Les familles, les amis se baignent, pique-niquent et font du volleyball. Souvent, des Père Noël surfeurs font une apparition. Certaines plages de Sydney en particulier sont connues pour être les lieux de prédilection pour les voyageurs étrangers et les routards.
Bah oui, forcément, c'est original pour le coup de passer Noël sur la plage. Hein. Et donc, pendant que les Australiens font du surf, les Vénézuéliens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du roller.
Ah, d'accord.
C'est une tradition de Noël insolite qui veut que toute la capitale de Caracas se rende à la messe de Noël en roller le jour de Noël. En fait, les véhicules sont interdits dans de nombreux quartiers de la ville avant 8h du matin. Comme si ce mode de transport n'était pas assez étrange, la veille, les enfants attachent aux extrémités d'une ficelle à leurs gros orteils et suspendent l'autre extrémité à la fenêtre de leur chambre, de sorte que les patineurs à roulettes de passage puissent tirer amicalement sur la ficelle en se rendant à la messe le lendemain matin. Enfin, on va terminer avec une dernière anecdote qui nous vient de Catalogne, avec une bûche de Noël qui fait caca. Je vais dire qu'est-ce que c'est que cette histoire encore. Donc c'est la plus farfelue celle-là. En Catalogne, il existe une tradition appelée Tio de Nadal, qui se traduit donc vulgairement par bûche de Noël. La bûche creusée est dotée d'un visage, de jambes et d'un petit chapeau rouge. Et à partir du 8 décembre, les familles la nourrissent chaque soir en la remplissant de cadeaux, de bonbons, et ils mettent également une couverture sur la bûche pour la garder au chaud. La veille de Noël, la bûche est placée dans la cheminée, bon, c'est pas allumé, hein, et les membres de la famille se relaient pour frapper avec un bâton, lui ordonnant de faire caca en fait les cadeaux et les bonbons, tout en chantant des chansons traditionnelles. Après le passage à tabac, les membres de la famille passent la main sous la couverture de la bûche pour récupérer les nombreux cadeaux qui ont été déposés avant.
D'accord.
Voilà. Des traditions.
Super Manu, on a appris plein de choses aujourd'hui avec toutes ces anecdotes.
Ouais, c'est vrai, on en a fait pas mal. Exactement.
Ah oui.
On va finir bien évidemment avec une chanson de Noël et on a choisi un groupe dont on ne pensera pas forcément qu'ils ont fait une chanson de Noël. Il s'agit de Queen avec Saint Gone It Christmas, sorti en décembre 1984. Bonne fête de fin d'année à tous et on se revoit au mois de janvier.
Bonne fête à tous, passez.
Salut Magali, bonne
fin
fête.
D'année.
Bonne fête à vous deux.
Ciao, ciao.
Ciao
et
ciao.
On se revoit au mois de janvier.
Mmh.
Bye.
Christmas. Yeah. it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, "We